Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous nous écoutez en direct à Sivari sur la radio Kounari. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres de ce journal. Des mouvements d'arrêt de travail continuent de secouer le pays. Ce matin, les CHU Gabriel Touré et Point G ont commencé une grève de 4 jours face à la situation. Des malades ne cachent pas leur mécontentement. Le médiateur de la CEDEAO Goodluck Jonathan est attendu demain mardi à Bamako. Une visite qui intervient après le sommet d'Abuja au Nigeria où l'organisation sous-régionale a exigé du Mali des élections le 27 février 2022 sous peine de sanctions supplémentaires. Après plus de 10 ans d'exil, certains réfugiés du camp de Mbeera en Mauritanie ont décidé de retourner volontairement au pays. Ils se trouvent dans la localité de Dari, une localité du cercle de Niafonké. Je suis Hamsetou Touré à la présentation de ce journal. Les séries de grèves se poursuivent dans le pays. Une semaine après le déclenchement de cette grogne sociale dans les hôpitaux, les négociations sont au point mort, indiquent les responsables syndicaux des structures de santé. Ce lundi 20 décembre, au point G, la grève est relancée pour 4 jours, soit 96 heures. Même situation au CHU Gabriel Touré. En plus de ces hôpitaux, d'autres secteurs aussi sont touchés par ces arrêts de travail. Draman Maïga nous fait le point.
Au point G, l'inquiétude se lit sur le visage des usagers. Ce lundi matin, à part le service minimum, les services de la neurologie, rhumatologie et autres blocs sont presque vides. Nos doléances restent les mêmes et nous attendons toujours la réaction du gouvernement, affirme Dr Guy Dalandouré, responsable syndical à l'hôpital de Point G. Au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré également, les travailleurs observent un arrêt de travail jusqu'au jeudi à minuit. Ils réclament entre autres l'amélioration du plateau technique, le paiement des primes, l'amélioration des conditions du personnel à faire face à la COVID-19. Par ailleurs, d'autres secteurs sont frappés par ces mouvements de grève. Il s'agit notamment de la Direction générale de commerce, de la consommation et de la concurrence, DGCC, en grève illimitée depuis le 22 novembre dernier. Elle demande à travers son syndicat la relecture de ses textes et l'accélération de la construction de son siège. À l'Université des langues et sciences humaines Sisa Kabbalah, les enseignants sont en arrêt de travail à cause du non-paiement des heures supplémentaires.
Sur le même sujet, au CHU Gabriel Touré, si les agents grévistes n'ont qu'un seul crédit ou credo, la satisfaction de leurs doléances, les malades et leurs accompagnants ne cachent pas leur colère. Certains d'entre eux, désespérés, sont retournés chez eux par faute de soins. Ils demandent au gouvernement et aux grévistes de trouver vite un compromis. Écoutons ces avis recueillis par Juliette Koulibaly.
La grève impacte vraiment sur le traitement de nos malades. Je suis ici avec mon fils qui s'est cassé sa jambe et son bras dans un accident. Nous sommes là depuis 13 jours. Nous espérons vraiment la fin de cette grève.
On nous prescrit des ordonnances quand même, mais les médecins ne sont pas accessibles. Certains implorent ceux qui assurent le service minimum pour qu'ils acceptent d'administrer des soins.
Le service est assuré par les stagiaires. En attendant la fin de la grève, ils ne font que nous prescrire des ordonnances. On a trop dépensé d'hier à aujourd'hui. Le peu qu'on a, si on le dépense avant la fin de la grève, ça sera vraiment compliqué.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux, à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je l'annonçais dans les titres, le médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est attendu demain matin à Bamako. Cette visite de 24 heures de Goodluck Jonathan s'effectue dans le cadre de la mise en application des dernières recommandations du sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale sur le Mali. Le 12 décembre dernier à Abuja, au Nigeria, les chefs d'État de l'organisation ont exigé du Mali des élections le 27 février 2022 sous peine de sanctions supplémentaires. Plusieurs dizaines de familles de réfugiés ou de déplacés sont rentrées au bercail ce lundi 13 décembre à Dari dans le cercle de Niafonké. Certaines de ces familles étaient en Mauritanie depuis la rébellion de 2012 alors que d'autres s'étaient déplacées vers la région de Ségou à cause de l'insécurité. Ce retour spontané a été organisé sans le soutien d'aucune autorité mauritanienne ou malienne. Pour le moment, les réfugiés et déplacés n'ont pas reçu reçu la visite des autorités. Notre correspondant Anya Funke Sikoumeiga est allé à leur rencontre.
C'est au total 120 familles qui sont rentrées du camp d'Umberra en Mauritanie. Après 10 ans d'exil, ces réfugiés espèrent reprendre une vie normale. Mais ici, les traces d'une crise sécuritaire combinée aujourd'hui à la précarité font renaître des incertitudes. Khalid Aghamed, un réfugié de retour à Dari.
Nous sommes ici dans l'école de Dari. Ce que vous voyez sont des impacts des balles. C'est à cause de ça qu'on a quitté ici depuis janvier 2012. On revient pour la première fois après 11 ans. On est revenu avec des femmes et des enfants. On reconstruit notre village. Et on a trouvé le village, il n'y a rien.
En plus des familles venues de Mauritanie, 65 autres sont rentrés de Niono et de Diura dans la région de Ségou. Ces ménages aussi avaient fui les violences à Dari. Ilada Haidara, chef de village de Dari, demande de l'aide aux bonnes volontés.
On a vraiment besoin d'aide. Figurez-vous que les gens qui sont venus d'Embera, c'est environ 120 familles et 65 ménages qui ont fui l'insécurité dans la zone de Niono et Diura se sont ajoutés à ces nombres. Ces familles manquent de tout. Elles sont réellement nécessiteuses. Elles ont tout laissé derrière elles.
Depuis leur retour, ces habitants n'ont encore reçu la visite d'aucune autorité. Malgré cela, Dari compte rester pour reconstruire leur village et participer au développement du pays. C'est Koumaïga de retour de Dari dans le sac de Niafunke pour Studio Tamani.
Autre sujet, voyager par route de Bamako à Mopti en transport commun demande de l'endurance et de la patience. Les tracasseries commencent dès la sortie de la gare jusqu'à destination. Surcharge, négligence des clients par les agents depuis l'embarquement, corruption et la dégradation de la route. Entre les maux dont les passagers font face, notre reporter Imrana Kilumeiga a fait le trajet de la route Bamako-Sévaré. Voici donc son compte-rendu.
Il est 14 heures. Nous embarquons dans un car en direction de Mopti. Mais le départ est facile. Tout passager avec plus d'un sac est obligé de payer de l'argent pour son surplus de bagages. C'est depuis l'enregistrement de bagages que notre plus grande difficulté commence. Le prix demandé est deux fois supérieur au normal, explique Abdoulaye Koulibaly, passager. Selon lui, le bagagiste réclame 10 000 francs CFA pour des pieds d'arbre achetés à 5 000. Dès la sortie de la gare, au niveau de la Tour d'Afrique, le bus se transforme en une sautrement et la commence des arrêts à n'en plus finir. À ces tracasseries s'ajoute la surcharge. Le mauvais état de la route à partir de 100. Au niveau du poste de sortie de Ségou, tout passager qui n'a pas de pièce d'identité est contraint à payer la somme de 1 000 francs CFA sans aucun reçu en contrepartie. Une corruption dénoncée par le juge âgé. Le même contrôle se fait également au poste de Sianso à la sortie de 100. Faute de pièces, chaque passager paye également 1 000 francs CFA sur place. À tout ceci s'ajoute l'excès de vitesse. Le trajet de 635 km qui sépare Bamako de Mopti est parcouru à moins de 7 heures d'horloge par certains conducteurs. De Sévaré, Imrana Kilomaïga pour Studio Tamani.
De Sévaré, nous partons à Niono. Le paludisme et les infections pulmonaires sont entre autres maladies les plus enregistrées au centre de santé communautaire central de Niono. Chaque année, plus de 150 cas de paludisme chez les enfants de 0 à 15 ans et environ 200 cas d'infection pulmonaire sont enregistrés par le centre. Ces informations sont données par les responsables du CSCOM. Reportage de notre envoyé spécial à Niono, Khalifa Goïta, sur la prise en charge des malades au niveau de ce centre.
Pour certains usagers du CSCOM, tout se passe bien concernant la prise en charge des malades. Mais d'autres regrettent une négligence des agents de santé.
Je suis là pour la vaccination de mon enfant. Je suis venue de loin. Je dois aller préparer encore. Ils font du bon boulot. Les retards, la négligence des docteurs, c'est ça qui me fait très mal.
Non, tout va bien là, le CSCOM ici. Je n'ai pas de problème.
Le directeur technique du CSCOM central de Niono souligne qu'il n'y a pas assez d'agents qui travaillent dans ce centre de santé. Il salue toutefois le soutien de certains partenaires, notamment Médecins sans frontières. Docteur Issa Tunkara.
Notre médication est très précaire, il y a des traitements ambulants partout. Et je n'ai que deux sans-formes officiellement. Heureusement, nous avons reçu l'appui du Médecins sans frontières qui nous ont donné deux infirmières obstétriciennes qui, pour l'instant, à reconstruire notre centre de santé qui est actuellement en réhabilitation. La gratuité est devenir une réalité dans mon centre. La gratuité concerne les femmes enceintes. Après l'accouchement, l'enfant sera pris en charge jusqu'à l'âge de 14 ans.
Docteur Tunkara précise aussi qu'une démarche est en cours pour pérenniser la gratuité des soins au niveau de ces CSCOM. De Niono, Khalifa Goïta pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région. Le groupe de réflexion et d'action pour le développement de la région de Kai, Grad Kai, le Front d'action pour la région de Kai France, FARC France, viennent d'offrir une pirogue équipée de modèles de Babaroto. La cérémonie de remise a eu lieu ce samedi au bord du fleuve Bafi, en présence des chefs de village, des autorités locales, des parents d'élèves et des élèves. Les autorités locales ont remercié les généreux donateurs, le Studio Tamani. Rappelons que c'est la deuxième fois que ces villages riverains reçoivent une pirogue motorisée. Toutes ces donations étaient possibles grâce au sujet de société difficile traversé des élèves traités par Studio Tamani en avril dernier. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute dans un instant. La question A. Dans notre question A du jour, nous partons à la découverte du bolon. Le bolon est un instrument de musique traditionnel en milieu mandingue, Sénoufo et Minianka au Mali. Il a été classé mercredi dernier au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. L'instrument est joué pendant les cérémonies rituelles dans les traditions. Le son encouragerait les paysans lors des récoltes ou les guerriers au combat. Cependant, le bolon est menacé de disparition, préviennent des hommes de culture. Reportage de Lala Aïcha Walet Infa.
Le bolon est un instrument à percussion. Il est composé d'une grande caisse de résonance faite d'une calebasse recouverte de cuir. Le tout est surmonté d'une manche en bois muni de cordes. Son inscription au patrimoine culturel de l'UNESCO va permettre de le valoriser et de le protéger. Professeur Daouda Daou, enseignant au Conservatoire culturel Bala Faseke Kouyati.
Il faut savoir qu'un instrument inscrit, ça devient l'affaire de toute la communauté internationale. L'instrument stabilise la musique chez les Minianka. L'instrument est joué pour galvaniser les travailleurs. Donc lors des fêtes, l'instrument est utilisé. Mais en plus de cela, les morts éminents, c'est vraiment toute une culture qui va avec l'instrument.
On retrouve cet instrument dans les mariages, baptêmes et les prières. Il a pour importance de stabiliser la musique et la société également. Le bolon est joué dans les communautés mandingue, mais également Niankala et Sénoufo. Daouda Daou, enseignant au Conservatoire culturel Bala Faseke Kouyati.
C'est un instrument en voie de disparition. Donc, il est très important de l'inscrire. Sinon, l'instrument va un jour disparaître complètement. Il faut savoir qu'un instrument inscrit, cela donne beaucoup plus, ça aide les communautés à renforcer davantage pour que au moins l'instrument puisse être transmis de génération en génération. Ça permet aussi d'avoir des projets autour de l'instrument. Donc c'est toute la communauté internationale qui va aider à valoriser les bolons.
Le ministre de l'Artisanat, de la Culture ne cache pas sa joie. Il remercie et salue les efforts des services maliens et de l'UNESCO pour le classement de cet instrument sacré d'un bolon au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat et de la Culture.
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'UNESCO, mais également les services techniques de l'administration malienne pour le classement de cet instrument mythique que le bolon, un instrument traditionnel bien représentatif de la culture malienne.
En plus du bolon, plusieurs symboles de la culture africaine ont été inscrits par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité. Il s'agit de tchopdjen sénégalais, un plat de riz au gras avec du poisson, mais également la rumba, une danse congolaise.